frères et sœurs, voilà, nous sommes dans la joie et le communion nous rappelle cette joie. En l'honneur de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, c'est un mot un peu bizarre, mais qui veut dire que la maman de Jésus n'a jamais, jamais été touchée par le péché. Vous imaginez quelqu'un qui ne s'est jamais fâché, qui n'a jamais fait quelque chose de déplacé et qui avait beaucoup d'amour pour son fils, pour tout ce qui l'entourait. Nous célébrons aussi le deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est le temps de la préparation pour la venue de Jésus. Pourquoi on se prépare? Et là, c'est la première question qui devient intéressante. Pourquoi, si Jésus est le Sauveur, nous devons nous préparer, nous aussi, pour permettre qu'il agisse dans nos cœurs? Alors, dans les lectures que nous avons entendues, on nous parle de Jésus comme le prince de la paix. Il va rétablir la justice dans le monde. Vous imaginez si un jour, il n'y avait plus d'injustice. Il n'y avait plus besoin de se disputer, il n'y avait plus besoin de manifester. Tout le monde était content. Eh bien, cela ne se passe pas de manière magique. La force de celui qui vient nous sauver, dit la première lecture du prophète Isaïe, la force de Jésus, c'est en grande partie dans sa parole. Vous imaginez, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de fusils, il n'y a pas de mitrailleuses, de bombes, de grenades. Sa force pour que le monde vive en paix, c'est la parole. Ah, quand on parle, et ça peut nous arriver à la maison, on a besoin aussi d'entendre. Est-ce que la maman vous a jamais dit « Tu ne m'écoutes pas » ? Ça vous est arrivé, oui. Et vous, Marie, est-ce que votre femme... On va laisser le mari tranquille. Alors, Jean-Baptiste, c'est ce personnage, il était cousin de Jésus. Et il va au désert, il va crier. Vous savez pourquoi il crie dans le désert alors que les gens sont dans... Parce que quand les gens sont dans les choses quotidiennes, qui vont à l'école, qui vont au travail, qui font les tâches ménagères, ils sont très occupés, ils n'entendent plus. Alors Jean-Baptiste, il se retire, il va au désert. Et l'Église nous dit aujourd'hui que nous aussi, nous devons quelque part aller au désert. C'est-à-dire ne pas simplement nous occuper de nos petites affaires, de nos affaires très importantes, mais aussi savoir quitter les choses qui ne sont pas essentielles, parce que, comme dira Jésus plus tard, il y a une seule chose nécessaire, vraiment, 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 vraiment nécessaire, et c'est Dieu. Mais pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut lui faire la place. Alors Jean-Baptiste, il va au désert, il y a beaucoup de place, les gens ne sont pas préoccupés pour, ni les uns pour les autres, ni pour tout ce qui se passe autour d'eux. Comment nous allons au désert? Eh bien, par exemple, pour préparer le chemin de Jésus, il faudrait bien étendre un peu la télévision. Diminuer l'utilisation des écrans, des téléphones, tablettes, téléviseurs, d'ordinateurs, voilà. Écoutez la parole des parents, écoutez aussi la parole de Dieu, parce que c'est pour les grands aussi. Hein. Vous pouvez prendre le loisir d'écouter vos femmes, vos maris, et si vous êtes très courageux, vous écoutez vos belles-mères. Pour belle-fille, non, parce qu'il y a certains qui disent que j'ai quelque chose contre les belles-mères aussi. Alors il faisait une chose très particulière. Les gens, ils allaient se faire baptiser. Et Jean-Baptiste, il dit, mon baptême, c'est rien à côté du baptême que va vous apporter Jésus. Il est le plus fort. Cependant, il a accepté que les gens viennent se baptiser. Et le texte nous dit, il ne nous dit pas simplement qu'il venait faire la douche ou les bains. Il dit, il se faisait baptiser en reconnaissant les péchés, en confessant les péchés. C'est pour cela que l'Église, encore aujourd'hui, nous dit, vous voulez bien, bien préparer Noël, allez vous confesser. Allez vous confesser au prêtre, mais avouez aussi vos fautes. Et c'est de cela que je voudrais parler rapidement. Qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que ça veut dire avouer, reconnaître, confesser? Et qu'est-ce qui se passe si je ne reconnais pas mes fautes? Alors, il y a trois possibilités. Et parfois ça se fait tout ensemble. La première, qui est très connue des psychologues et des psychiatres, c'est le déni. Quand vous avez fait quelque chose pas bien, ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, ou vous avez dit quelque chose qui n'allait pas, eh bien, il faut le reconnaître. Si je ne le reconnais pas, je vais dire, c'est pas moi. Non, je n'ai pas fait ça. Non, c'est pas si mauvais que ça. Non. Et on commence à glisser dans les dénis. Et quand ça, c'est... Ça devient un peu vieux dans les familles, on commence à traîner les non-dits de famille. C'est-à-dire des mensonges qui restent cachés dans mon cœur, mais qu'un jour, ils vont exploser. Parce que si je me dispute avec quelqu'un, par exemple, toi, comment tu t'appelles? Si je me dispute avec Camille, je lui ai fait du mal. Et que j'ai dit, non, c'est pas ma faute, non, moi j'ai rien fait, non. Ça va pas. Est-ce que Camille, elle peut être contente? Elle va pas être contente. Elle va dire, mais tu m'as giflé, et j'ai rien fait. Et si tu m'as fait du mal, pourquoi tu ne le reconnais pas? Et si je le reconnais, est-ce que Camille, tu veux redevenir mon amie? Oui, mais si je ne le reconnais pas, je deviens quelqu'un qui te frappe. Alors cet amour que nous avions commencé à nourrir, s'affaiblit. Et puis surtout, c'est pas simplement que je fais mal à Camille, c'est que je commence à devenir un menteur. Et combien de violences il y a dans l'école d'un menteur? Et la première violence, c'est de ne pas reconnaître qu'il s'est trompé. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais trompé, qui élève la main? Nous sommes tous des êtres humains. S'est trompé, c'est humain. Pardonner, c'est divin. Mais si on ne reconnaît pas, on glisse dans les dénis et il y a des maladies, plein de maladies psychiatriques, qui ont l'origine dans ces dénis, dans ces mensonges. La deuxième chose qui se passe, si je ne reconnais pas devant les seigneurs, mais aussi devant les autres, c'est que je commence à jeter la faute sur les autres. J'ai cassé un verre, je ne sais pas moi, c'est mon frère qui a cassé le verre. Le monde va mal, c'est pas parce que je fais pas mon travail, c'est mon patron qui... Et parfois le patron est responsable aussi, hein, mais... Quand je n'avoue pas ma faute, je prends pas ma responsabilité, c'est automatique. C'est pas parce que vous êtes un pervers, pathogène, c'est parce que c'est la nature humaine. il faut reconnaître, il faut mettre la faute quelque part. Si vous ne prenez pas sur vous, vous allez accuser les autres, vous allez critiquer les autres. Et c'est une des questions que le pape François nous invite à faire très souvent. Il nous dit, ne critiquez pas les autres. Pourquoi? Parce que c'est, même si vous dites vrai, vous mentez. Comment ça? Je peux dire vrai, je peux mentir. Et oui, comme disait le père Sonnet, c'est un vieux prêtre qui connaissait bien les couples, il disait, on a souvent tort à la manière d'avoir raison. On peut dire, peut-être j'ai dit Camille, voilà, elle est gentille, mais je commence à critiquer Camille. C'est pas forcément faux. Je ne vois aucun défaut, mais probablement elle en a, comme chacun de nous. Mais je déplace l'attention. Les mots disent vrai, mais mon cœur est déjà sur le chemin de la justice, de l'accusation, de la haine, de la colère. Voilà. Avant d'accuser les autres, il faut s'accuser soi-même. Il y avait un vieux moine à Gaza, en Palestine, qui n'était pas ni le supérieur de la communauté, il s'occupait d'ouvrir la porte. C'est les frères portiniers. Et il observait les gens, comme il ouvrait la porte, il fermait, il savait qui sortait, qui entrait. À la fin, il savait tout. C'est comme les gens qui font l'accueil ici à la paroisse. Ils savent tout ce qui se passe. Et il disait, il y aurait beaucoup plus de paix dans la communauté si chacun commençait par s'accuser soi-même. L'explication du fait que parfois on est un peu en ébullition, qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on s'accuse, on crie, on se dispute. Et l'explication, c'est qu'on ne commence pas par s'accuser soi-même. Il y a un troisième truc qui peut arriver si je ne reconnais pas mes péchés, si je ne vais pas me confesser, si je ne me confronte pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est un peu plus subtil, c'est plus difficile pour les enfants. Les grands vont me comprendre, c'est les sentiments de culpabilité. C'est quoi les sentiments de culpabilité? C'est quand je n'ai pas mis des mots au mal. Je n'ai pas dit j'ai cassé les verres, ou j'ai haussé trop la voix, ou je suis arrivé en retard. On ne met pas les mots, on commence à ressentir que l'autre n'est pas très content. Et on ne sait pas si c'est lui, si c'est moi, si c'est elle. Et on a un sentiment vague d'indignité. On ne sait pas, on se sent pas à la hauteur. On se sent un peu moins, pas bien, pas trop, pas bon, pas... C'est les sentiments de culpabilité qui arrivent quand on n'a pas fait la lumière. On n'a pas mis la lumière du Seigneur sur ma vie. Et parfois j'oublie, je me sens mal, mais je ne sais plus pourquoi, parce que je n'arrive pas à ramener la vérité dans mon cœur. Vous voyez, c'est beau de pouvoir dire, j'assume en vérité mes fautes. Je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, maman. Je ne t'accuse plus. Je te demande pardon, mon épouse, mon mari. Et on est soulagé parce qu'on a fait la vérité dans son cœur. Et si jamais il vous arrive de ne pas reconnaître une faute dans votre cœur, dites-vous, comme a dit la petite Thérèse, c'est le Seigneur comme on a préservé. Dites-vous, comme a dit Saint Augustin, il n'y a pas un péché que je ne suis pas capable de faire. Si je n'ai pas commis les meurtres, c'est le Seigneur, comme on l'a préservé.